Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro-Rebelle Hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion sur Radio Plus. C'est chaque semaine, le mardi de 12h à 13h. Micro-Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale et politique, un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Sans attendre, voici notre agenda social et culturel pour les jours à venir.
Une pièce de théâtre jouée du mercredi 17 au samedi 20 janvier à la Comédie de Béthune et qui s'intitule « J'appelle mes frères ». Une pièce donc d'après un texte de Jonas Hassen Kemiri, mise en scène par Noémie Rosenblatt, autant pour moi, assistée d'un groupe d'amateurs en l'occurrence. Une pièce qui traite des questions d'intégration et d'exclusion dans un climat anxiogène au lendemain d'attentats terroristes. Je vous lis le texte d'accroche. « Amor traverse la ville sous le regard des passants, rien de plus banal. » Mais le lendemain d'un attentat, ce jeune homme issu de l'immigration a conscience que le regard sur lui n'est plus le même. Amor, qui passait jusque-là inaperçu, se pose des questions. Je ne sais pas si l'ambiance a changé ou si c'est moi qui m'imagine des choses. Pour les amateurs de théâtre intéressés, c'est donc à la Comédie de Béthune, au tarif plein de 20 euros tout de même, tarif réduit de 3 à 12 euros. Renseignements et réservations à la billetterie de la Comédie de Béthune.
Toujours côté théâtre, jeudi 18 janvier à 14h30 et vendredi 19 janvier à 20h, au Centre culturel Jacques Prévert de Arnes, une pièce feuilleton intitulée « Demandons l'impossible » sera jouée dans le cadre du temps fort de culture commune « Être humain ». Une mise en scène et une interprétation de la compagnie Sens Ascensionnel au prix de 10 euros en plein tarif et de 3 à 5 euros en tarif réduit. Pour réserver vos places ou pour plus de renseignements, il suffit d'appeler au 03 21 76 21 09 ou par courriel à jacques.prévert@ville-arne.fr.
Et on se retrouve le samedi 20 janvier pour une conférence débat avec Pierre Dardot, co-auteur avec Christian Laval du livre L'ombre d'octobre. Donc ça se passera de 10h30 à 12h30 au Lag, situé à Liévin. Donc l'ombre d'octobre parle de la prise de pouvoir par les bolcheviks et les conséquences que cela a engendré sur le monde. Donc Pierre Dardot, je répète, sera donc au Lag à Liévin le samedi 20 janvier de 10h30 à 12h30 pour débattre sur son livre avec vous.
Le même jour, donc le samedi 20 janvier, On va encore parler de la révolution d'octobre 17, mais cette fois-ci avec un autre point de vue. Hein, la conférence de Pierre Dardot qui vient d'être évoquait un point de vue critique sur la révolution d'octobre et le léninisme. Là, cette fois-ci, dans l'après-midi, le samedi 20 janvier à 14h, c'est à Lens, à la salle Bon Accueil, au numéro 46 rue du Stade. C'est l'université populaire Che Guevara qui propose aussi des conférences, dont une toujours sur octobre 17, mais avec cette fois-ci un esprit plus favorable à Lénine et au léninisme. Donc ce jour-là, deux conférences sont proposées aux spectatrices et aux spectateurs, aux participants et aux participantes. Une première conférence par Stéphane Sirot, qui est un spécialiste des questions syndicales et qui abordera les problématiques sociales et syndicales en France aujourd'hui. Et la deuxième conférence, c'est celle que j'évoquais. Elle s'intitule « Le nouveau défi léniniste » par le philosophe Georges Gasto. Donc c'est le même jour, toujours, le samedi 20 janvier, l'Université populaire Che Guevara à 14h dans l'après-midi, donc à la salle Bon Accueil au numéro 46 rue du Stade à Lens.
Samedi 20 janvier aura lieu une soirée alimentation et santé, soirée qui sera animée par l'AMAP d'Angre et Robec. Jean-Claude, un AMAPien, fera une présentation détaillée sur les liens entre l'alimentation et la santé. Ce sera donc une soirée amicale, sous le mode d'une auberge espagnole, où chacun ramène un petit quelque chose à manger. Donc ça se passera, je le rappelle, au LAG à 19h, le samedi 20 janvier.
Lundi 22 janvier à 20h au Ciné Movida à Arras, c'est un ciné-débat à partir du film La Sociale, un film de Gilles Perret qui raconte l'étonnante histoire de la Sécu et qui nous invite à découvrir les luttes qui ont permis, sous l'égide du ministre communiste Ambroise Croizat, qui ont permis la mise en place de la Sécu après la Seconde Guerre mondiale, et qui nous invite également à réfléchir aux coûts qui sont portés aujourd'hui à cette institution qu'est la Sécurité sociale. Donc c'est à Arras, au Ciné Movida, le lundi 22 janvier à 20h.
Dans l'agenda culturel cette fois-ci, une pièce de théâtre par la compagnie La Compagnie, c'est son nom, César Danglot revient des enfers. Alors César Danglot, c'est l'un des 13 rescapés de la catastrophe de Courrières en 1906, la catastrophe minière de Courrières en 1906. Et donc, cette pièce de théâtre nous fait pénétrer dans un univers hors temps. Une atmosphère sombre, renforcée par une création musicale subtile, nous happe et donne corps à la puissance de l'ensemble. D'une sincérité et d'une vérité déconcertantes, le tout est d'une justesse à faire froid dans le dos. Mise en scène de Saverio Maligno. Cette pièce de théâtre, César Danglot revient des enfers, c'est donc le mardi 23 janvier à 20h à l'Escapade d'Hénin-Beaumont, 263 rue de l'Abbaye. Pour tout renseignement et réservation, c'est au 03 21 20 06 48 ou par courriel à accueil@escapadetheatre.fr. Les tarifs réduits 9 euros, tarifs pleins 11,50 euros.
Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois. Comme toujours sur Microrebelle, il s'agit de musique libre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Kimoru Cru et leur dernier album Projet Folk. Habitués des chansons énergiques baignant dans un esprit folk trad, version Cajun, les sympathiques drilles de Kimoru Cru ont changé leur fusil d'épaule pour cet album. Plus posé et intimiste, celui-ci révèle une facette plutôt touchante des Québécois. 8 titres fort plaisants qui donnent vraiment envie de voir le groupe explorer à nouveau cette voie. Je vous propose d'écouter Nouveau départ.
Ma belle, il est temps de partir. Garderas-tu en toi les souvenirs de ton école, de tes amis, le jour où tu es passé par ici?
ma belle, il est temps d'y aller. Parce qu'un jour ça devait arriver. L'hiver entre dans ma maison quand ton printemps se pointe à l'horizon. C'est encore un nouveau départ qui t'attend de l'autre bord de la rue. Puis si tu penses pas aimer ça, dis-toi bien que je serai toujours là. Quand la vie t'a placé sur mon chemin, alors j'ai su que je ne savais rien de mes forces et de mes faiblesses, même si le temps s'est occupé du reste. Tu m'as forcé à devenir meilleur, à foncer droit devant malgré la peur. Te voir grandir à mes côtés, rien de mieux ne pouvait m'arriver. C'est encore un nouveau départ qui t'attend de l'autre bord de la rue. Puis si tu penses pas aimer ça, dis-toi bien que je serai toujours là. Un jour quand tu me verras partir, garderas-tu en toi les souvenirs et chanteras-tu ce refrain pour que la vie continue son chemin. C'est encore un nouveau départ qui t'attend de l'autre bord de la rue. Si tu penses pas aimer ça, dis-toi bien que je serai toujours là. C'est encore un nouveau départ qui t'attend de l'autre bord de la rue. Et si tu penses pas aimer ça, dis-toi bien que je serai toujours là.
Nous diffusons maintenant un reportage lié à l'actualité sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois. Aujourd'hui, nous revenons sur les conditions d'accueil des réfugiés en France à l'occasion d'une communication de la préfecture d'Arras que nous avons croisée avec l'interview d'une réfugiée congolaise et celle du directeur du CADA de Liévin, le centre d'accueil des demandeurs d'asile. C'est un reportage de Luc que vous pourrez retrouver sur microrebelle.fr, micro-rebelle et micro et rebelle au pluriel, à la rubrique Chronique Rebelle.
Je m'appelle Zirak, 24 ans.
Je viens du Soudan.
Je m'appelle Chinois Ritalet.
Je m'appelle Bansilda, Jeanne Claire.
Je m'appelle Adam Abdullah. Je suis originaire tchadien. Merci, monsieur le préfet. Vive la France. La France a une responsabilité. L'État a une responsabilité.
Et cette demande de protection doit se traduire par une intégration rapide. C'est à notre portée.
Mise en valeur des parcours d'intégration, c'est ainsi que se nomme la présentation à la préfecture de réfugiés fraîchement élus au titre de citoyens français. un moment qualifié d'exceptionnel par le préfet Sudry, une opération de communication qui ne porte pas à conséquence, l'occasion de se pencher sur les conditions d'intégration des étrangers en France et dans le bassin minier. Avant même l'interview du préfet interviewé pour l'occasion, écoutons le témoignage de Jeanne Claire, réfugiée congolaise, qui témoigne de son expérience d'intégration.
Je m'appelle Pansinga Jeanne Claire. Je viens de la République démocratique du Congo. Et actuellement, je vis à Liévin. Pour ma part, je me sens très bien intégrée parce que, d'ailleurs, dès mon arrivée, je me suis sentie bien accueillie partout où je suis passée, depuis Lille jusqu'ici à Liévin, là où je suis. Je suis bien accueillie par les responsables du centre d'hébergement des demandeurs d'asile et aussi avec tous les référents. Je me sens bien ainsi que tous les résidents du centre. J'étais à Lille, alors il fallait aller dans un centre de demandeurs d'asile. Alors on n'avait pas trouvé d'endroit. C'est comme ça que je suis arrivée. Parce qu'en quittant de chez moi, je ne savais pas là où aller. J'étais hébergée avant par des familles françaises qui m'ont accueilli dès mon arrivée et jusqu'à ce que j'ai intégré le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Les critères d'une bonne intégration, c'est l'apprentissage de la langue du lieu, aussi s'intégrer dans la vie sociale, milieu de, et dans le travail, et avoir aussi un logement fixe. Chez nous, on a souvent dit que quand tu sors de chez toi, tu vas ailleurs, il ne faut pas d'abord commencer à pêcher, il faut d'abord observer et voir comment les autochtones pêchent avant de le faire. Ça, c'est pour bien dire, quand on vient avec nos cultures, mais quand on arrive dans une autre culture, il faut d'abord observer afin de commencer à s'intégrer petit à petit et puis à vivre aussi hein, les valeurs qui sont propres à eux. C'est ça la vie. Moi, je ne connais pas, je ne maîtrise pas la langue. Je dois faire tout pour apprendre la langue et parfois, certains n'ont pas la capacité de maîtriser cette langue. Alors, il faut s'intégrer. Et puis aussi dans la façon de vivre qui n'est pas la nôtre. Il faut faire les sacrifices pour s'introduire afin d'arriver à collaborer. À collaborer avec tout le monde parce que si on vient tel qu'on vient, on peut dire brut et on veut vivre toujours comme ça, ça ne va pas tellement tenir. Je peux dire à mes concitoyens ou d'autres demandeurs d'asile qui sont déboutés et maintenant qui peinent, qui ne peuvent rien, en tout cas je pense pour eux parce que d'abord le voyage qu'ils ont fait et toutes les souffrances rencontrées sur la route à maintenant les renvoyer encore à la frontière tel que le ministre de l'Intérieur est en train de demander. En tout cas, pour moi, ça me fait très très mal.
Un petit mot de cette cérémonie, qu'est-ce qu'elle représente déjà pour commencer?
Je crois que c'est une cérémonie qui est un moment un peu exceptionnel finalement et peu ordinaire, où nous avons pu entendre le témoignage de personnes qui ont obtenu le statut de réfugié dans notre pays, qui sont originaires de très nombreuses contrées du monde, on l'a bien vu, et qui sont accompagnés par des collectivités, par des associations, par des employeurs aussi qui les intègrent dans la vie professionnelle et qui nous ont dit qu'ils ou elles étaient tout à fait désireuses de continuer à vivre dans notre pays, d'accéder à l'emploi, d'accéder au logement, de mieux parler la langue française. Et donc, je crois que pour moi, pour l'État, c'était important de mettre l'accent sur le parcours de ces personnes, parce que nous avons une responsabilité. La France a une responsabilité, l'État a une responsabilité pour ces personnes qui ont reçu notre protection après une demande d'asile effectuée dans notre pays. Et cette demande de protection, elle doit se traduire par une intégration rapide dans notre pays.
L'État a des responsabilités, c'est ce que vous avez dit. D'ailleurs, on aura aussi des procédures un peu moins longues par rapport au dossier de demande d'asile.
Oui, l'un des objectifs de l'État, c'est d'accélérer la demande d'asile. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des durées très longues qui placent les gens en situation inconfortable, dans une attente difficile à gérer, qui coûte d'ailleurs assez cher sur le plan de l'hébergement aussi. Donc l'idée est vraiment de raccourcir de manière rapide, enfin substantielle, l'instruction de la demande d'asile. Le processus a déjà commencé. L'objectif du gouvernement est de passer de 18 mois en moyenne aujourd'hui dans l'instruction des demandes d'asile à 6 mois dans l'année qui vient.
Justement, sur la question de la simplification de la procédure de demande d'asile, est-ce que ça favorisera pas également le nombre de reconduites à la frontière ?
Non, il n'y a pas d'objectif. Les deux sujets ne sont pas directement liés. Notre pays doit à la fois répondre à ses valeurs, à ses responsabilités pour reconnaître et assurer la protection de celles et ceux qui, dans leur pays d'origine, sont confrontés à des difficultés très sérieuses. C'est la tradition de la France, de l'Europe d'ailleurs, que d'accueillir ces personnes et de le faire dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible. Donc je crois que c'est ça l'objectif. Et par ailleurs, pour celles et ceux qui ne relèvent pas de cette protection, il y a d'autres voies qui peuvent être naturellement mises en œuvre.
S'il y a cette cérémonie, est-ce que ça implique le fait qu'il y ait des nouveautés, des nouvelles directives dans le parcours d'intégration, dans le système d'intégration ?
C'est aller plus loin, se mobiliser plus, favoriser une approche plus coopérative des acteurs et considérer que c'est une priorité. D'intégrer les réfugiés, c'est une priorité pour tout le monde. On en a la capacité. C'est tout à fait à notre portée.
Est-ce que la priorité, c'est pas d'abord, de prime abord, l'accueil qui, on le voit dans la région, notamment à Calais ou dans certaines jungles, laisse parfois à désirer?
Oui, bien sûr, c'est tout à fait lié. Il faut que l'État puisse offrir une possibilité de mise à l'abri dans de bonnes conditions aux populations migrantes qui arrivent souvent dans notre pays et notamment dans le département, après des vies et des parcours difficiles, bien sûr. C'est d'accueillir. C'est pour ça qu'il y a des créations de centres, de places qui permettent d'héberger les personnes dans des conditions qui sont normales.
Alors justement,
encore faut-il qu'elles le souhaitent, bien naturellement.
Alors justement, par rapport à l'année prochaine, pour les CIAO, on aura des changements. C'est celui de Trois-Vaux, il va fermer notamment.
Oui, le centre de l'abbaye de Delval va fermer. Donc il nous faudra trouver des places en remplacement. Donc nous sommes en train d'examiner cette question avec dans le département. Je n'ai pas d'inquiétude particulière.
Eric Flitz, directeur de l'APSA, Association pour la solidarité active du Pas-de-Calais, interrogé dans les bureaux du CADA de Liévin, nous livre une vision plus lucide et plus mitigée des conditions d'intégration des réfugiés. Il est souvent donné un peu trois critères d'intégration, le logement, l'apprentissage de la langue française et l'emploi. Pour accéder à ces trois éléments, est-ce que les moyens mis en place sont suffisants ?
Je vais aborder plutôt la réponse par un autre angle. Quand on arrive en France pour demander l'asile, il y a toute une démarche à effectuer. On fait une demande d'asile, il y a une gestion faite par l'État qui oriente vers les centres de demandeurs d'asile. Et quand on y est, on peut instruire cette demande d'asile pour obtenir le statut de réfugié. D'abord, ça n'est pas simple. C'est très difficile d'obtenir ce statut et ça nécessite un travail qui est fait par les personnes qui formulent cette demande, accompagnés par les travailleurs sociaux qui travaillent, donc qui œuvrent dans ces centres d'accueil. Ce sur quoi je veux interpeller l'État et interpeller les gens, et l'opinion publique en général, c'est que oui, on vient en France pour avoir un statut de réfugié. Quand on a le statut de réfugié, il faut s'intégrer par le logement, par le travail, et puis par une situation administrative qui soit adéquate. On fait le bon citoyen, on reconstruit le bon citoyen. On oublie juste une petite chose, c'est que quand on quitte son pays, dans des conditions qui sont difficiles, on vit un vrai drame. La plupart des gens qu'on accueille dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile et dans les autres dispositifs qui préexistent avant la demande d'asile ou après la demande d'asile, tous ces gens ont vécu un drame, une dramaturgie qui est exceptionnelle. Moi, je fais souvent référence à 1940 ou à 1939, quand les Français étaient sur les routes et quand ils avaient besoin de quelque chose, qu'ils se souviennent de l'histoire, les Français, quand ils portent un regard sur la migration aujourd'hui et sur les migrants aujourd'hui, qu'ils se souviennent combien c'était difficile et comment c'était dangereux à l'époque. Aujourd'hui, les gens qu'on accueille ont des histoires de vie qui sont dramatiques. Travailler, oui. Comment je fais pour trouver un travail quand je n'ai en tête que la tête de mon fils que j'ai récupéré dans un sac quand mon fils avait 4 ans qui a été décapité quand je viens du pays dans lequel j'ai été torturé? Comment je fais pour travailler si je ne traite pas cette difficulté-là? On a bien sûr des moyens dans les centres d'accueil pour travailler. On a des travailleurs sociaux pour instruire les démarches, pour vivre la quotidienneté, pour travailler la langue. On oublie la dimension psychotraumatique qui n'est pas suffisamment mise en avant pour qu'elle soit suffisamment traitée par les spécialistes de ça. Alors nous, ici, au centre d'accueil de demandeurs d'asile de Lens, Basalier 20 pour le coup, on a quelqu'un qui intervient, mais quelqu'un qui intervient une journée par semaine pour 98 personnes. Toutes n'ont pas le même niveau de dramaturgie, mais toutes ont une histoire dramatique. Et donc toutes ces personnes ont besoin de parler et besoin d'être entendues. Mais comme les équipes qui ne sont pas formées pour ça, elles ont elles aussi besoin d'être professionnalisées là-dessus. Si ça, c'est pas traité, on pourra mettre tous les logements qu'on veut à disposition, on pourra mettre tous les travaux, les emplois qu'on veut à disposition, ça sera peine perdue. Mais ça, c'est pas spécifique à une population de demandeurs d'asile. Tout être humain qui a dans son histoire de vie un drame, s'il ne traite pas le drame, il pourra pas avoir une vie dite normale. Et ben c'est exponentiel et à l'échelle XXX, XL, pour les gens qui ont quitté leur pays et qui ont 13 000 km dans les lattes et qui doivent arriver là en se disant « Oui, super, je fais une demande d'asile, on va me traiter, ça y est, je suis réfugié, il faut que je m'intègre. » Ok, on a des exemples comme Jeanne Claire qui ont été interpellants, mais tout le monde n'a pas la ressource de Jeanne Claire. Tout le monde n'a pas cette ressource, cette force interne pour le faire. Et il faut du temps. Il faut du temps pour travailler ça. Je pense que dans la démarche de la demande d'asile, oui, il faut penser logement, travail, famille, patrie, un peu cet estampillonnage AOC. Vous savez, comme on dirait, pour être un bon citoyen français, il y a une appellation d'origine contrôlée, il faut avoir un travail, il faut avoir un logement, il faut qu'administrativement tout soit fait. Ok, super. Mais et l'histoire de vie, quoi? Comment est-ce qu'on aide ces gens à reconstruire une vie et une histoire de vie qui leur permettent justement d'obtenir cet estampillage-là AOC?
Alors effectivement, là, vous insistez sur la dimension psychologique qui est un peu mise de côté dans justement ces parcours d'intégration. Quand on se projette, on a un peu également l'impression que c'est la dimension sociale aussi qui est mise de côté. C'est-à-dire que même si on coche les cases de l'emploi, du logement et de la langue française, ça ne veut pas dire qu'on est socialement intégré, accepté et qu'on a une vie sociale, on va dire, épanouissante. Et peut-être même pas suffisante.
Effectivement, on fait une demande d'asile, on est accueilli dans un CADA, mais quand on en sort, on restera peut-être pas forcément dans le bassin dans lequel on a été accueilli. Et l'orientation en CADA, même elle, peut être faite, elle peut avoir été formulée à Lille, mais comme c'est une gestion nationale, on peut être envoyé à Marseille pour être accueilli. Donc, commencer un travail à Lille pour le poursuivre à Marseille, non, ça marche pas. On construit un travail à Lille, on l'arrête et on recommence à Marseille. Donc ça, c'est une complexité. Il y a peut-être quelque chose à apporter au niveau de la gestion, peut-être plus régionale de ces difficultés-là. Mais bon, c'est pas l'urgence. Dans chaque centre d'accueil de demandeurs d'asile, on travaille sur deux dimensions dès l'entrée, dès l'accueil de la personne. On travaille sur l'espoir d'obtenir le statut de réfugié, mais aussi sur le désespoir de ne pas l'obtenir. C'est une vraie difficulté pour les personnes qu'on accueille. Je travaille sur ce que j'ai envie, sur le statut dont je rêve pour pouvoir recommencer ma vie, malgré toutes les difficultés, mais en même temps, je dois me projeter sur « et si ça n'arrive pas ?»« Et si l'État ne me reconnaît pas le droit d'être un réfugié ?» Comment est-ce que je vais travailler? Et ça, c'est cette dimension sociale que vous abordez. Il est évident qu'une fois qu'on est accueilli, la personne a un travail à faire sur son environnement, sur son relationnel environnemental, pour que les enfants puissent aller à l'école, soient bien intégrés à l'école, pour que dans les réseaux de bénévoles autour de l'action, c'est-à-dire les Restos du Cœur, le Secours Populaire, enfin, toutes ces actions qu'on peut trouver autour de notre travail social, tous ces gens-là puissent, que toutes les personnes accueillies en attente d'un statut puissent dresser autour d'elles un réseau qui fera que, si ça se passe bien qu'il y a un statut de réfugié, il y a déjà des gens autour, il y a déjà des relations amicales, parfois, en tout cas, il y a déjà des relations, et on n'est pas seul, on n'est pas isolé. Mais quand on est débouté du statut, il faut aussi avoir un réseau autour de soi, parce qu'on va sortir du dispositif. Et comment est-ce qu'on sort du dispositif? Parce que oui, on peut éventuellement être hébergé après dans un centre d'hébergement d'urgence, parce que la conditionnalité de l'accueil des hébergements d'urgence fait que si quelqu'un tape à la porte, on le laisse entrer, on le fera rentrer. C'est un peu caricatural, mais c'est comme ça. Quand il y a de la place. Le fait est qu'il n'y a pas de place partout. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Ces gens sont à la rue. Alors on ne tolère pas que les Français soient à la rue, on ne tolère pas que les étrangers soient à la rue. Enfin, la misère n'a pas de couleur, quoi. La rue, c'est la rue et c'est difficile à vivre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, le niveau social et la prise en charge sociale fait qu'on a le temps de la demande pour construire des compétences avec les gens, mais ces gens ont aussi des compétences relationnelles à construire pour dresser autour d'eux un vrai réseau de soutien pour une demande, enfin, un statut positif et continuer à vivre de façon épanouissante, ou pour, en cas de refus, trouver des solutions pour ne pas avoir à être reconduit dans un pays qui serait un pays où la vie serait encore plus difficile.
Est-ce qu'on ne peut pas craindre la mise en place d'un vaste système de tri qui permet d'écrémer une population et des flux migratoires croissants?
Des tri, entre guillemets, enfin, je ne vais pas en parler comme ça, mais il y a dès les hotspots, dès les pays en difficulté, des hotspots sont élaborés sur les territoires pour que les gens qui sont accueillis là-bas puissent déjà formaliser une demande, et la bonne demande. En France, il existe, alors, certes, il y a les jungles et autres camps, je dirais, sauvages entre guillemets, bien entendu, hein. Je veux dire non contrôlé. C'est dans ces camps-là, je pense qu'il y a des équipes de maraudes qui vont chercher, qui vont à la rencontre. Après, il existe aussi des dispositifs, hein, que ce soit CAES, CAO, il existe des dispositifs que nous-mêmes on appelle des gardes de triage, hein, soyons clairs, où les gens peuvent se reposer et prendre le temps, dans une certaine dignité, de formuler une demande. Est-ce que je veux effectivement demander une demande d'asile à la France ou pas? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, l'Angleterre reste l'Eldorado, en tout cas est vu comme étant l'Eldorado, tant qu'on n'aura pas construit un pont piétonnier de 33 km entre Calais et Douvres, on aura toujours cette problématique-là, quoi qu'on fasse. Alors oui, je pense que là aujourd'hui, on cherche à mettre à offrir la possibilité du choix. Alors, ça dépend de où on se situe, c'est toujours pareil, et de la façon dont c'est fait. Mais il faut que, effectivement, toutes ces personnes puissent le formuler ce choix-là à un moment donné, et dans une certaine dignité. Quand on est dans un camp à Calais, quand on est dans un camp à Grande-Synthe, etc., enfin non, c'est le camp actuel de Grande-Synthe, forcément, on n'est pas dans une situation suffisamment digne de sécurité, d'humanité, pour formuler et pour réfléchir à sa situation et pour formuler le bon choix. Là on voit fleurir des CAES dans des hôtels, il n'y a pas d'accompagnement ou très peu, enfin, c'est, voilà, ça c'est de la poudre aux yeux, hein. Ça c'est de la poudre aux yeux, alors que quand il y a des CAO qui permettent au moins un mois d'attente de reprise en cours de de reprise en main de sa vie pendant un mois où on est hébergé, alimenté et où on peut dormir dans un lit, dans une chambre seule avec une douche, rien que ça déjà, ça permet de reformuler son choix. J'y vais ou j'y vais pas, je veux aller en Angleterre, je veux pas aller en Angleterre. Il faut que ça soit géré de façon humaine. Je pense que le gouvernement actuel a des velléités de ça, en tout cas c'est affiché comme ça. Alors c'est sûr qu'une manifestation comme hier, on dit « Alléluia, regardez, il y a des gens qui s'intègrent ». Oui, enfin, pendant qu'il y en a 3 qui s'intègrent, il y en a 700 qui crèvent la faim à Calais. Donc il y a des situations qui nécessitent qu'on retrouve de l'équilibre. Encore une fois, mais c'est comme pour tout à chacun ici en France, il faut qu'on puisse faire entendre sa voix. Il faut que quelqu'un puisse entendre ce qui est dit dans les meilleures conditions possibles. Ce que je vous dis là, c'est vrai pour tous les SDF de France et de Navarre. Si on ne va pas les voir, s'il n'y a pas des gens qui vont à leur rencontre pour entendre leurs choix, leurs décisions et leurs envies, on n'aura pas de résultat. On n'aura pas de résultat. Et on peut ouvrir tous les dispositifs possibles et imaginables. Et on peut le faire de toutes les façons plus ou moins brusques, imaginables. Ça ne marchera pas. Il y aura toujours à la marge quelqu'un qui aura besoin d'être entendu une fois qu'il sera sur site. Alors oui, aujourd'hui, je pense qu'il faut aller vers les équilibres. Il y a déjà des systèmes qui s'équilibrent, mais on peut en requérir plus d'équilibre. Tout le monde n'a pas envie de rester en France. Comment va se positionner l'Angleterre comment se positionne l'Europe face à l'Angleterre par rapport à cette problématique-là? Parce qu'on peut accueillir, on peut remplir les quotas, on peut faire tout ce qu'on veut. Sauf que quand on veut aller en Angleterre, on va en Angleterre. Quoi. Donc, que l'Angleterre joue son rôle aussi. Hein. On regrettera peut-être les accords du Touquet. Mais voilà.
C'était un reportage de Luc pour Micro Rebelle, web radio du bassin minier. Retrouvez toutes nos émissions et reportages sur microrebelle.fr.
Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois. Comme toujours sur Micro Rebelle, il s'agit de musique libre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir 4BSTR4CK3R et son album du même nom. DJ parisien, 4BSTR4CK3R nous enchante depuis 2010 avec son trip-hop coloré et chaloupé. Laissez-vous bercer au son de ses 11 titres, teintés de world music, notamment des Balkans, de soleil et de rythmique tranquille. Le morceau qui suit s'intitule World Hop. We'll be right back. Nous diffusons maintenant un reportage lié à l'actualité sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois. Aujourd'hui, nous revenons sur la projection du film « Les citronniers » à l'espace Ronnie Cooter de Grenay lors d'un ciné-sandwich. Un reportage de Luc qui permet d'aborder le conflit israélo-palestinien.
Ciné-sandwich.
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 Cinoche à la bonne franquette ce mercredi 10 janvier à l'espace culturel Ronnie Cooter de Grenay. Une séance en salles obscures agrémentée d'un gouléant casse-croûte et où l'on projette un film du réalisateur israélien Eran Riklis, Les Citronniers. Ce film, inspiré d'une histoire vraie, relate les déboires d'une cultivatrice palestinienne qui fait les frais de son voisinage malheureux avec le ministre de la Défense israélienne qui élit domicile au bout de son verger. Sécurité oblige, les deals souhaitent voir abattre les citronniers, mais c'était sans compter la pugnacité de l'agricultrice qui se pourvoit en justice. Tout d'abord, quelques réactions à chaud sur cette romance mélodramatique où se mêlent imbroglio juridique et compassion.
Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du film ?
J'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était un film assez fort qui montre assez bien la vie pénible, surtout des femmes, qu'elles ne sont pas très entendues. Et non, j'ai adoré.
C'était une très belle fiction pour introduire le sujet. Bon, bien sûr, après, il faut aller au-delà pour affiner un peu plus et puis... Pour étudier le problème palestinien, je pense qu'il faut voir d'autres films plus concrets sur la question palestinienne, parce que là, c'était un petit peu trop édulcoré, je veux dire. Quoi. C'est une belle fiction, voilà.
C'était fort intéressant, et puis triste à la fois. Finalement, les arbres, ils auraient pu les laisser en laissant le mur, c'était suffisant. Pourquoi ils ont coupé les arbres ?
Catherine et Patrick de l'association Amitié Lille-Naplouse pour un jumelage citoyen témoignent de leur propre expérience de la Palestine. Ils nous parlent entre autres de la militarisation outrancière, de l'arbitraire juridique et du problème de l'eau.
Tous les détails qui sont donnés sont tout à fait véridiques, c'est ça qui fait que le film est intéressant. On entend très souvent dans le film le fait qu'il y a des terroristes, que la sécurité d'Israël doit être assurée, bien sûr. Et c'est là-dessus que qu'est basée la politique israélienne. La construction du mur après la deuxième intifada et ce mur qu'on voit là et dont il est question plusieurs fois dans le film, c'est pour protéger les Israéliens. Ce qui est totalement incroyable et surréaliste, oui, mais sauf que c'est la triste réalité. Ce que je regrette un petit peu dans un film comme celui-là, c'est que du village, ils se rendent à Jérusalem et on ne voit aucun checkpoint. On voit juste un endroit où on leur dit « arrêtez-vous, vous n'avez plus le droit de passer ». Ça, c'est tout à fait fréquent, c'est-à-dire que ce n'est pas un checkpoint bien visible avec des pierres, des fils de fer barbelés, des soldats très, très, très armés, mais c'est un petit checkpoint mouvant. Et ça, c'est tout à fait fréquent, ça nous est arrivé assez régulièrement. Donc on est obligé de faire demi-tour ou de passer par la montagne, ça fait 50 km de plus sur des routes qui sont complètement défoncées. Un Palestinien, par exemple, qui doit aller travailler en Israël, parce que ça arrive, ils ont besoin de vivre, simplement, et bien quelquefois, la plupart du temps, ils doivent se lever à 4h du matin pour être sûr de pouvoir être au boulot à 8h, parce qu'ils ne savent jamais si oui ou non ils vont pouvoir passer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, les plaques des voitures... Elles sont soit vertes, soit blanches. Et les plaques vertes, ce sont les plaques des Palestiniens. Et ils n'ont absolument pas le droit, mais vraiment pas le droit d'utiliser les routes ou les autoroutes qui sont construites pour les Israéliens. C'est une vraie situation d'apartheid.
Et on dit là-bas que Israël peut fermer la Cisjordanie en 20 minutes. Rien qu'avec le système routier. La dernière fois qu'on est allé, puis ça j'ai eu des témoignages dernièrement aussi, c'est inquiétant dans le sens où il y a de moins en moins de checkpoints. C'est-à-dire qu'il y a une période où ils les avaient ouverts, et comme disait ma femme, ils sont mobiles maintenant un peu plus. Les militaires, ils se baladent, ils arrêtent. Mais de moins en moins, quoi. ça veut dire qu'il y a une situation qui paraît acquise pour eux. Ils occupent vraiment. Ils n'ont plus besoin de contrôler. Et ça, c'est inquiétant. Ça veut dire que les autres, l'occupant est sûr de son coup, quoi. Il y a une autre façon d'occuper. Peut-être avec la délation, peut-être avec la collaboration, hein, parce qu'il y a ça aussi, hein, comme dans tous les pays occupés.
Le problème, c'est que les colonies, effectivement, ne cessent de grignoter du terrain. Alors, les colonies se trouvent la plupart du temps sur les montagnes qui dominent les villages palestiniens. Et ça, c'est tout à fait exprès, bien sûr, parce qu'ils utilisent toutes les sources d'eau, toutes les ressources d'eau pour les colonies. Et de ce fait, les Palestiniens ont évidemment moins d'eau. Ils sont obligés d'acheter leur eau, des nappes phréatiques qui se trouvent sur leur territoire. Elles sont détournées par les Israéliens et ils sont obligés d'acheter l'eau aux Israéliens, alors que c'est leur eau. Mais le problème de l'eau est le problème crucial. En dehors de tout autre problème, toute autre considération politique ou sociale, le problème de l'eau, c'est vraiment ce qui permet aux Israéliens de tenir les Palestiniens à la gorge. Mais vraiment au sens propre du terme, quoi. Quand ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'eau. Parce qu'ils ils créent des lois pour eux aussi. Par exemple, ils expulsent un agriculteur, ou bien ils le mettent en prison. Parce que ça, c'est très facile de mettre quelqu'un en prison en Palestine. Il n'y a même pas besoin de donner une raison particulière. C'est une détention administrative. Ça dure 6 mois. Il n'y a pas d'avocat, ou il y en a très peu. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de motif de condamnation, il n'y a rien du tout. Et les 6 mois peuvent être renouvelés pendant des années. Mais vraiment pendant des années. Il y en a qui passent 11, 15 ans en prison. Dans chaque famille palestinienne, il y a au moins un ou deux. Deux personnes qui ont été emprisonnées ou qui sont emprisonnées. Donc, on emprisonne un agriculteur, par exemple. Une terre qui n'est pas cultivée pendant 2 mois, elle devient automatiquement propriété israélienne. Et à partir du moment où c'est israélien, propriété israélienne, c'est un droit inaliénable qui est dans leur constitution. Et le Palestinien, si jamais il sort de prison, ou bien si sa famille s'en mêle un peu, elle va essayer de faire tout ce qu'elle peut en prouvant, en montrant, en passant par la justice, exactement comme cette femme dans le film, avec la preuve qu'ils sont propriétaires, ça ne changera absolument rien. Il existe aussi en Israël des associations de défense des Palestiniens. Par exemple, il y en a une qui est très 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 importante qui s'appelle Breaking the Silence et qui est vraiment briser le silence. Donc, et elle a été créée par des anciens militaires. Alors il faut savoir qu'en Israël, tous les jeunes à partir de 18 ans font leur service militaire. Les garçons pendant 3 ans, les filles pendant 2 ans. Et qu'ils sont au checkpoint, ils sont justement dans toutes ces zones franchement humiliantes pour les Palestiniens. Et certains sont revenus totalement traumatisés de ce qu'ils avaient vécu et ils ont décidé de se regrouper à tel point que, évidemment, ils parlent beaucoup, ils témoignent beaucoup, mais de plus en plus maintenant, et ça c'est quelque chose d'absolument nouveau, des jeunes qui viennent d'avoir le bac, donc, et qui théoriquement doivent tout de suite partir à l'armée, refusent de le faire.
Merci à Catherine et Michel de nous faire part de leur expérience du conflit israélo-palestinien. Merci à l'espace René Couteur pour les sandwichs et le film. C'était un reportage de Luc pour Micro Rebelle. web radio du bassin minier. Retrouvez toutes nos chroniques et reportages sur microrebelle.fr.
Ce Micro Rebelle Hebdo se termine sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois. Nous terminons par de la musique libre et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Ce Micro Rebelle Hebdo se termine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.